Questions et réponses. Première question. J'ai lu les livres que vous avez eu la gentillesse de me faire parvenir et je trouve intéressant certains de vos concepts concernant le baptême de Jésus. Pouvez-vous me dire ce que vous enseignez sur la relation entre notre baptême et le baptême, la mort et la résurrection de Jésus-Christ? Réponse. Tout d'abord, nous devons prêter attention aux baptêmes, tels qu'ils sont écrits dans Hébreux, chapitre 6, verset 2. Selon la Bible, il existe trois baptêmes différents. Le baptême de Jean-Baptiste pour la repentance, le baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste, et notre baptême d'eau comme rituel. Le baptême que nous recevons est une confession de notre foi dans le baptême de Jésus. C'est-à-dire que nous sommes baptisés afin de confesser notre foi selon laquelle nous croyons que Jésus a été baptisé pour enlever tous nos péchés et qu'il est également mort sur la croix pour les expier. Maintenant, vous pouvez comprendre Matthieu, chapitre 3, verset 15, où il est dit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Ici, « ainsi » signifie que Jésus lui-même a porté tous les péchés du monde en étant baptisé par Jean-Baptiste, le représentant de toute l'humanité. C'était le plan profond de Dieu de nous sauver du piège inévitable du péché. Le Seigneur Dieu a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous, Ésaïe, chapitre 53, verset 6, et nous a accordé sa justice. Justice signifie ici dikaiosune, en grec, qui signifie également équité et justice. Cela nous dit que Jésus a porté l'iniquité de toute l'humanité de la manière la plus équitable et la plus juste en étant baptisé sous la forme de l'imposition des mains. Nous avons été sauvés par notre foi forte dans le baptême, la mort sur la croix et la résurrection de Jésus. La puissance de la circoncision spirituelle, Romains, chapitre 2, verset 29, de son baptême, qui a retranché tous nos péchés de nos cœurs, a lavé les péchés de nos cœurs. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit au peuple, Pierre leur dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Actes, chapitre 2, verset 38. Tous les pécheurs devraient obtenir l'effacement des péchés dans leur cœur en croyant au nom de Jésus. Quelle est la signification de son nom? Tu lui donneras le nom de Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. Matthieu, chapitre 1, verset 21. Le nom de Jésus signifie « le Sauveur » qui sauve son peuple de tous ses péchés. Comment nous a-t-il sauvés de tous nos péchés? Jésus nous a sauvés de tous nos péchés par son baptême et sa mort sur la croix. Lorsque les apôtres de Jésus-Christ prêchaient l'Évangile, ils s'assuraient d'une compréhension claire du baptême de Jésus et de la croix, ils enseignaient donc le véritable Évangile, puis baptisaient ceux qui y croyaient. En conséquence, nous sommes baptisés pour confesser extérieurement que nous croyons au baptême et à la mort de Jésus au plus profond de notre esprit. Lorsque nous sommes baptisés, nous confessons « Merci, Seigneur. Tu as porté tous mes péchés par ton baptême, tu es mort pour moi et tu es ressuscité pour me sauver. Je crois en ton évangile. » Nous sommes baptisés dans l'eau par des ministres comme symbole de notre foi dans le baptême de Jésus et sa mort sur la croix, tout comme il a été baptisé par Jean-Baptiste. Ainsi, les saints de l'Église primitive étaient baptisés comme preuve de leur croyance, après avoir confessé leur foi en l'Évangile et avoir obtenu le salut, c'est-à-dire l'effacement des péchés. Le rituel du baptême n'est pas une condition nécessaire pour être sauvé. Même s'il est très important de clarifier notre foi, nos baptêmes d'eau n'ont rien à voir avec notre salut. Nous ne pouvons être sauvés qu'en croyant en l'Évangile de l'eau et du sang. La Bible déclare que nous sommes baptisés en Jésus-Christ, Romains, chapitre 6, verset 3, Galates, chapitre 3, verset 27, lorsque nous croyons en son baptême. Alors, comment pourrions-nous être « baptisés en son nom » Cela n'est possible que si nous croyons en son baptême puisque la chair, notre vieil homme, ne pouvait être unie à Jésus et crucifiée avec lui que par notre foi en son baptême. Par conséquent, puisque Jésus a porté tous nos péchés par son baptême, sa mort était le jugement pour nos iniquités. Par conséquent, nous sommes également morts sur la croix avec lui. En d'autres termes, notre chair, qui ne peut que commettre des péchés jusqu'à la mort, est morte au péché et nous avons été sauvés de toutes nos iniquités en union avec Jésus par son baptême. Ceux qui sont unis à Jésus par son baptême et sa mort seront également unis à sa résurrection. Sa résurrection n'est pas seulement notre résurrection de nos morts au péché, mais elle nous permet aussi de naître à nouveau en tant qu'enfants de Dieu et consacrés, qui sont purs et sans péché devant lui. Si nous n'avions pas transféré nos péchés sur lui en nous méfiant de son baptême, sa mort et sa résurrection auraient pu être dénuées de sens, n'ayant rien à voir avec notre salut. Ceux qui ont transféré tous leurs péchés sur lui par la foi sont unis à sa mort sur la croix, ce qui leur permet de naître de nouveau comme justes. Cependant, ceux qui n'ont pas transféré leurs péchés sur lui en ne croyant pas en son baptême n'ont aucun lien avec sa mort et sa résurrection. Le baptême des croyants est digne de confiance, tout comme nous pouvons admettre un mari et une femme comme un couple légal par le biais d'une cérémonie de mariage. Le baptême des saints est une proclamation extérieure d'une telle croyance intérieure. Lorsque nous proclamons notre croyance en son baptême et en la croix devant Dieu, les saints et le monde, notre croyance devient plus immuable. Ayant mal compris le vrai sens du baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste, nous ne devrions pas croire que nous pourrions être sauvés sans croire en son baptême et à sa signification. C'est simplement une ruse du diable. Nous pouvons recevoir l'effacement des péchés et être accueillis au ciel en croyant vraiment au baptême de Jésus dans nos cœurs au lieu de croire en nos propres baptêmes. Deuxième question. Comment puis-je dire « Je suis juste » alors que je pèche tous les jours? Réponse. En tant qu'être humain, nous commettons des péchés dès notre naissance jusqu'à notre mort. En fait, cela est dû à notre nature fondamentale. Nous sommes nés avec le péché. La Bible dit donc « Il n'y a point de juste, pas même un seul ». Romains, chapitre 3, verset 10. C'est pourquoi l'apôtre Paul a confessé devant Dieu. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Première épître à Timothée, chapitre 1, verset 15. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Romains, chapitre 3, versets 21 à 24. Cette « justice » de Dieu signifie que Jean-Baptiste a baptisé Jésus dans le Jourdain. Avant d'être baptisé, il a dit à Jean « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Matthieu, chapitre 3, verset 15. Jésus a porté les péchés du monde de la manière la plus juste et la plus équitable qui soit lorsque Jean le Baptiste, le représentant de toute l'humanité, l'a baptisé. Ainsi, Jean s'est exclamé le lendemain du baptême de Jésus, « Voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. » Jean, chapitre 1, verset 29. Alors, que signifie ici le péché du monde? Il représente tous les péchés de tous les êtres humains depuis Adam et Ève, les premiers êtres humains sur terre, jusqu'à la dernière personne qui vivra dans ce monde. Les gens du passé appartiennent au monde, les gens du présent appartiennent au monde, et ceux qui vivront dans le futur appartiennent aussi au monde. Jésus, l'alpha et l'oméga, avait offert un sacrifice pour les péchés de tous les temps, portant tous les péchés du monde une fois pour toutes par son baptême dans le Jourdain et sa mort sur la croix. Et ainsi, nous avons été sanctifiés. La Bible déclare clairement, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Hébreux, chapitre 10, verset 10. Notez que cela a été écrit au passé composé. Nous avons été sanctifiés absolument et sans péché, depuis le moment même où nous avons cru en Dieu jusqu'à maintenant et le serons toujours. Car le Seigneur est le Dieu Tout-Puissant, il a une vue d'ensemble sur le commencement et la fin du monde. Bien qu'il ait été baptisé il y a environ 2000 ans, il a enlevé tous les péchés que les êtres humains ont commis du début à la fin du monde. C'est pourquoi, avant de mourir sur la croix, il a dit « Tout est accompli ». Jean, chapitre 19, verset 30. Il a enlevé par son baptême tous les péchés du monde il y a environ 2000 ans et est mort sur la croix. Nous péchons encore même après avoir été sauvés parce que notre chair est faible. Cependant, Jésus nous a rachetés de tous les péchés du passé, du présent et du futur, en portant tous les péchés sur son corps par son baptême et en étant jugé pour eux sur la croix. C'est le salut complet et juste de Dieu. Si Jésus n'avait pas enlevé les péchés que nous commettrons dans le futur, pas un seul être humain n'aurait pu être racheté du péché quotidien, car le salaire du péché, c'est la mort. Romains, chapitre 6, verset 23. Lorsque Jacob et Ésaü étaient encore dans le ventre de leur mère, Dieu les a séparés en deux nations avant même qu'ils n'aient fait quoi que ce soit de bien ou de mal, et il a aimé Jacob, mais a haï Ésaü et a dit, « Le plus grand sera assujetti au plus petit. » Genèse, chapitre 25, verset 23. Ce passage implique que le salut de Dieu n'a rien à voir avec nos propres actes, mais est donné à ceux qui croient simplement au salut parfait de Dieu dans son baptême et sa crucifixion. Nous, les êtres humains, sommes destinés à l'enfer en tant qu'êtres pécheurs du moment où nous naissons jusqu'au moment où nous mourons, mais Dieu a prévu nos péchés dès le premier regard, et a lavé tous nos péchés une fois pour toutes par le baptême de Jésus et la croix parce qu'il nous aime. Nous vivons dans une époque bénie. Le prophète Ésaïe a dit « Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. » Ésaïe, chapitre 40, verset 2. Le temps de notre esclavage au péché a pris fin grâce à l'évangile du baptême de Jésus et de la croix, donc quiconque croit en l'évangile peut être délivré de tous ses péchés. Voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur, et je les écrirai dans leur esprit, il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Hébreux, chapitre 10, versets 16 à 18. Dieu ne nous juge plus pour nos péchés quotidiens, car il a déjà lavé tous les péchés de l'humanité et les a jugés par Jésus. Par conséquent, nous pouvons attendre la venue du Seigneur et suivre sa parole, en tant que justes sans péché, même si nous commettons encore des péchés dans notre vie. Troisième question. Qu'est-ce que le baptême de repentance par Jean? Réponse. Jean-Baptiste était un serviteur de Dieu, né 6 mois avant Jésus, et dont Malachie avait prédit qu'il serait le dernier prophète de l'Ancien Testament. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb, pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Malachie, chapitre 4, versets 4 à 6. Même lorsque Jésus est né, le peuple d'Israël a abandonné les paroles de l'Alliance de Dieu et a adoré des dieux étrangers. Ils ont offert des animaux aveugles et imparfaits en sacrifice, et ont fait du temple de Dieu un lieu de commerce. Jésus-Christ est également prédit dans la loi de Moïse et les prophètes. La loi donne à l'humanité la connaissance du péché, lui montrant à quel point elle est pécheresse. Romains, chapitre 3, verset 20. C'est un péché de ne pas respecter un seul des commandements écrits dans les livres de la loi. Dans l'Ancien Testament, un pécheur qui transgressait ne serait ce qu'une disposition de la loi, présentait une offrande pour le péché devant le tabernacle. Il posait ses mains sur la tête du sacrifice pour le péché afin de transférer son péché sur lui, et en tuant le sacrifice pour le péché, il était de nouveau réuni à Dieu en tant qu'homme sans péché. Ensuite, le prêtre prenait un peu de son sang et le mettait sur les cornes de l'autel des holocaustes et versait tout le reste de son sang à la base de l'autel. Cependant, le peuple d'Israël ne pouvait pas être délivré de tous ses péchés, malgré ses innombrables offrandes quotidiennes. C'est pourquoi Dieu a instauré pour lui un statut permanent, le jour des expiations. À ce moment-là, Dieu enlevait complètement leurs péchés pour l'année, le 10e jour du 7e mois. Ce jour-là, Aaron, le grand prêtre, prit 2 boucs et tira au sort pour eux, un sort pour l'Éternel et l'autre pour le bouc émissaire. Aaron posa ses mains sur la tête du bouc pour l'Éternel, afin de lui faire porter sur la tête tous les péchés annuels des enfants d'Israël. Puis il égorgea, prit son sang et en fit 7 fois aspersion sur et devant le propitiatoire. Quand il eut achevé de faire l'expiation pour le lieu saint, il offrit l'autre animal. Il posa ses mains sur la tête du bouc vivant et confessa sur lui tous les péchés annuels des Israélites. Par cette méthode, tous les péchés annuels des Israélites étaient transférés sur lui, et il était envoyé dans le désert par la main d'un homme approprié. Les Israélites étaient ainsi rachetés de leurs péchés annuels. Cependant, le sacrifice offert selon la loi de l'Ancien Testament ne pouvait pas rendre parfaits ceux qui offraient des sacrifices continuellement année après année. Ce n'était qu'une ombre des bonnes choses, les actes justes du Messie, à venir. Hébreux, chapitre 10, verset 1. Le peuple d'Israël n'a pas attendu Jésus-Christ, le Sauveur. Au lieu de cela, Ils ont adoré les dieux étrangers du monde pécheur, abandonnant les paroles des prophètes de l'Ancien Testament. Ainsi, Dieu a prédit qu'il enverrait Jean-Baptiste afin de restaurer le cœur des Israélites, de les ramener à lui et de préparer leur cœur à recevoir Jésus-Christ. Avant que Jean-Baptiste ne baptise Jésus, il a donné le baptême de repentance au peuple d'Israël dans le désert de Judée. Son but en les baptisant avec de l'eau était de les amener à attendre et à croire en Jésus. Il enseignait que le Sauveur serait baptisé par lui par l'imposition des mains pour enlever tous les péchés du monde, puis crucifié pour les sauver de tous leurs péchés. Il disait que Jésus viendrait et enlèverait les sacrifices incomplets du passé et offrirait le sacrifice éternel avec son corps. Il prendrait tous nos péchés par le baptême, tout comme le peuple d'Israël était racheté en apportant une offrande pour le péché sans défaut, en posant leurs mains dessus et en la sacrifiant selon le système sacrificiel de l'Ancien Testament. De nombreux Israélites ont confessé leurs péchés, se sont repentis et ont été baptisés par Jean-Baptiste. Repentir signifie retourner son esprit au Seigneur. Se souvenant de la loi de l'Ancien Testament, ils sont venus vers Jean et ont confessé qu'ils étaient des pécheurs désespérés qui ne pouvaient que commettre des péchés jusqu'à leur mort. Ils confessèrent aussi qu'ils ne pouvaient entrer dans le royaume des cieux avec leurs bonnes œuvres selon la loi et retournèrent leur pensée à Jésus-Christ, qui effacerait tous leurs péchés une fois pour toutes, ouvrant la porte du royaume des cieux. Le baptême que Jean-Baptiste a donné au peuple d'Israël était le suivant. Il leur a permis de confesser combien ils avaient péché dans leur vie, de se repentir et de regarder vers Jésus-Christ, qui les a sauvés de tous leurs péchés. C'est une véritable repentance biblique. C'est pourquoi Jean s'écria au peuple : « Moi, je vous baptise d'eau, pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Matthieu, chapitre 3, verset 11. Jean-Baptiste a tourné l'esprit des gens vers Jésus, leur a témoigné que Jésus enlèverait tous les péchés du monde, Jean, chapitre 1, verset 29, et mourrait à leur place. Ainsi, Jésus lui-même a témoigné que Jean est venu nous montrer la voie de la justice. Matthieu, chapitre 21, verset 32. Quatrième question. Ne pensez-vous pas que comprendre le baptême de Jésus comme étant la condition nécessaire au salut annulerait sa mort sur la croix dans l'Évangile? Réponse. Le baptême de Jésus et sa mort sur la croix sont tout aussi essentiels à notre salut. Nous ne pouvons pas dire que l'un est plus important que l'autre. Cependant, le problème est que la plupart des chrétiens de nos jours ne connaissent que le sang de Jésus sur la croix. Ils croient qu'ils ont été pardonnés parce qu'il est mort sur la croix, mais ce n'est pas seulement la croix avec laquelle Jésus a enlevé les péchés du monde. Puisqu'il a été baptisé par Jean-Baptiste et a porté tous les péchés du monde sur son dos, sa mort sur la croix pourrait pratiquement être le jugement pour tous nos péchés. Croire uniquement en la croix sans le baptême de Jésus, c'est comme offrir un sacrifice au Seigneur sans poser les mains dessus. Ceux qui offraient de telles offrandes ne pouvaient pas être rachetés pour leurs péchés parce que ce genre de sacrifice était une offrande illégale, que le Seigneur Dieu ne pouvait pas accepter. L'Éternel appela Moïse et lui parla de la tente d'assignation, en disant « Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il l'offrira à l'entrée de la tente d'assignation, devant l'Éternel, pour obtenir sa faveur. Il posera sa main sur la tête de l'holocauste, qui sera agréé de l'Éternel, pour lui servir d'expiation. » Lévitique, chapitre 1, versets 3 à 4. Le Seigneur est juste et légitime. Il a établi un système sacrificiel juste et équitable afin de laver nos péchés. Lorsque nous offrons un sacrifice légitime, le sacrifice est accepté par le Seigneur pour faire l'expiation pour nous. Sans l'imposition des mains, aucun sacrifice ne peut être acceptable pour Dieu. De même, si nous omettons le baptême de Jésus de notre foi en lui, nous ne pouvons pas recevoir l'enlèvement du péché avec ce genre de foi. L'une des erreurs les plus courantes auxquelles croient les chrétiens d'aujourd'hui est qu'ils pensent qu'ils peuvent être sauvés en confessant simplement que Jésus est leur sauveur parce que le Seigneur est amour. La Bible, bien sûr, dit « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé » Actes, chapitre 2, verset 21, Romains, chapitre 10, verset 13, alors qu'elle nous dit aussi que « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Matthieu, chapitre 7, verset 21. Pour confesser que Jésus est le Sauveur, nous devons connaître la loi du salut que Dieu a établie. Si nous pouvons être sauvés simplement en croyant au nom de Jésus, il n'y aurait aucune raison pour que les Écritures soient écrites sur le système sacrificiel de l'Ancien Testament et sur ceux qui pratiquent l'iniquité dans Matthieu, chapitre 7, versets 21 à 23. Cependant, la manière étonnante et parfaite du salut du Seigneur est clairement rapportée dans la Bible. En effet, nous pouvons clairement voir dans les chapitres 3 et 4 du Lévitique qu'un pécheur devait poser ses mains sur la tête du sacrifice pour transférer ses péchés sur sa tête, puis tuer et asperger son sang lorsqu'il offrait des sacrifices pour le péché et la paix. Offrir un sacrifice sans imposition des mains ou offrir un sacrifice avec un défaut est trop illégal pour faire l'expiation. Les mots de l'Ancien et du Nouveau Testament ont leurs équivalents correspondants. Ésaïe, chapitre 34, verset 16. Le baptême de Jésus dans le Jourdain est égal à l'imposition des mains du pécheur sur la tête du sacrifice pour le péché dans l'Ancien Testament. Lorsque Jésus fut baptisé par Jean-Baptiste dans le Jourdain, il dit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Matthieu, chapitre 3, verset 15. Ici, tout ce qui est juste signifie justice et équité. Cela signifie qu'il était normal que Jésus devienne le sacrifice pour le péché de l'humanité par cette méthode. Il était également normal qu'il soit baptisé par Jean-Baptiste sous la forme de l'imposition des mains, pour enlever tous les péchés du monde. Cela s'est fait de la manière la plus juste, selon le système sacrificiel composé de l'imposition des mains et du sang que Dieu a établi dans l'Ancien Testament. Croire seulement en la croix signifie par conséquent que sa mort n'avait rien à voir avec nos péchés, car nos péchés n'auraient jamais pu être transférés sur lui sans le baptême de Jésus. Cela revient à considérer son sang comme incapable de laver les péchés. Hébreux, chapitre 10, verset 29. Par conséquent, son sang ne serait réellement efficace pour laver les péchés dans le cœur des croyants que s'ils croient que tous leurs péchés ont été placés sur lui, lorsque Jean-Baptiste l'a baptisé par l'imposition de ses mains. Ainsi, l'apôtre Jean a témoigné que celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu, qui est venu par l'eau et le sang, est vainqueur du monde. Jésus est venu par l'eau et le sang, pas seulement par l'eau. Première épître de Jean, chapitre 5, versets 4 à 6. Jésus-Christ a expliqué à ses disciples les choses le concernant dans toutes les Écritures. En commençant par Moïse et tous les prophètes, il a montré que le sacrifice pour le péché dans l'Ancien Testament était lui-même. David a dit dans les psaumes au lieu de lui, « Voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Psaume, chapitre 40, versets 7 à 8, Hébreux, chapitre 10, verset 7. En conséquence, son baptême n'annule pas la croix, mais constitue en réalité la partie essentielle de l'Évangile du Seigneur qui complète et accomplit le sens de la croix. Il nous enseigne également que nous ne pouvons pas avoir de rédemption sans le baptême et le précieux sang de Jésus-Christ. Ce que signifie être sauvé, c'est obtenir l'effacement des péchés en croyant au baptême de Jésus et à son sang versé sur la croix, et recevoir le Saint-Esprit comme un don. Première épître de Jean, chapitre 5, verset 8, Actes, chapitre 2, verset 38. Cinquième question. Pouvez-vous m'expliquer l'évangile de l'eau et de l'esprit? Réponse. Si nous avions perdu une aiguille quelque part à l'extérieur, nous la chercherions probablement dans la zone où nous l'avons perdue. Cependant, il semble absolument absurde d'essayer de la trouver à l'intérieur de la maison simplement parce qu'il y fait plus clair. Je trouve des gens absurdes comme ça dans les églises d'aujourd'hui. Bien qu'ils soient facilement impliqués dans les controverses bibliques sans fin sur le baptême d'eau des croyants, ils ne se posent jamais cette question importante. Pourquoi Jésus a-t-il été baptisé par Jean-Baptiste ? En raison de cette tendance, il existe de nombreuses dénominations et sectes dans la communauté chrétienne d'aujourd'hui. Pour mettre un terme à ces controverses incessantes, il faut sortir du village chaotique et revenir à l'endroit où nous avons perdu notre aiguille. Si nous voulons sincèrement trouver la vérité, nous devons nous débarrasser du stéréotype, car nous ne pouvons pas la trouver dans un village de religion. Pourquoi les apôtres ont-ils tant insisté sur le baptême de Jésus-Christ ? Jésus a dit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Jean, chapitre 3, verset 5. La Bible nous dit que Jésus est venu par l'eau et le sang afin de nous sauver de tous nos péchés. Première épître de Jean, chapitre 5, verset 6. La signification du sang est sa mort sur la croix. Alors, que voulez-vous dire par « eau » ? Pourquoi Jean-Baptiste a-t-il baptisé Jésus? Pourquoi a-t-il proclamé « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste » Matthieu, chapitre 3, verset 15, juste avant son baptême. J'espère sincèrement que vous comprenez et croyez en l'évangile de l'eau et de l'esprit, en particulier au baptême de Jésus. Voici quelques brèves explications sur l'évangile de l'eau et de l'esprit qu'il a donné à ses disciples. Les apôtres ont mis l'accent sur le baptême de Jésus lorsqu'ils ont prêché l'évangile. L'apôtre Paul a dit « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. » Première épître aux Corinthiens, chapitre 15, versets 3 à 4. Que signifie « Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures » ? Cela signifie que sa mort a expié tous nos péchés selon la méthode donnée par Dieu dans l'Ancien Testament. Il est mort pour nous selon la révélation et l'alliance de l'Ancien Testament. Hébreux, chapitre 10, verset 1, déclare « En effet, la loi, qui possède une ombre des biens à venir. » Examinons le sacrifice typique dans Lévitique, chapitre 1, verset 3 à 5. Un pécheur doit satisfaire à trois conditions de l'Holocauste pour l'expiation de ses péchés. Premièrement, il devait apporter un sacrifice sans défaut. Lévitique, chapitre 1, verset 3. Deuxièmement, il devait poser ses mains sur la tête de l'offrande. Lévitique, chapitre 1, verset 4. Ici, nous devons clarifier la loi de Dieu. Poser les mains sur la tête de l'offrande était la loi de Dieu pour transférer ses péchés sur elle. Troisièmement, il devait la tuer pour expier son péché. Lévitique, chapitre 1, verset 5. Le jour des expiations, Aaron posait ses deux mains sur la tête d'un bouc vivant, confessait sur lui toutes les iniquités et les transgressions des enfants d'Israël, tous leurs péchés, et les posait sur la tête du bouc. Lévitique, chapitre 16, verset 21. À cette époque, Aaron était le représentant d'Israël. Lui seul posait ses mains sur la tête du bouc, mais tous les péchés annuels du peuple d'Israël, environ 2 à 3 millions, lui étaient transmis. Le sacrifice de l'Ancien Testament est une ombre des bonnes choses à venir. Jésus s'est offert lui-même par la volonté de Dieu afin de nous sanctifier selon les Écritures. Tout d'abord, Jésus est venu dans la chair d'un homme pour être l'agneau de Dieu sans défaut. Il est le Fils unique de Dieu et l'image expresse de sa personne. Hébreux, chapitre 1, verset 3. Ainsi, il est digne d'être le sacrifice d'expiation pour toute l'humanité. Deuxièmement, Jean-Baptiste a baptisé Jésus dans le Jourdain. Le baptême est donné sous la forme d'une imposition des mains, et Jean-Baptiste est un descendant d'Aaron et le représentant de toute l'humanité. Lorsque Jean a posé ses mains sur la tête de Jésus-Christ, tous les péchés du monde ont été transférés sur lui selon la loi que Dieu avait établie. Jésus a dit à Jean, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Puis Jean l'a baptisé. Tous nos péchés ont finalement été transférés sur lui. Le lendemain même, Jean s'est exclamé, « Voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. » Jean, chapitre 1, verset 29. Troisièmement, Jésus est mort sur la croix pour effacer tous nos péchés, en disant, « Tout est accompli. » Jean, chapitre 19, verset 30. Il est ressuscité des morts pour nous rendre justes devant Dieu. Souvenez-vous qu'un sacrifice expiatoire était offert pour l'effacement des péchés. Un pécheur devait poser ses mains sur la tête de l'offrande avant de la tuer. S'il en oubliait une seule, c'est-à-dire s'il omettait de poser ses mains sur la tête de l'offrande, il ne pouvait pas être racheté parce qu'il avait pratiqué l'iniquité. Si un chrétien n'a aucune idée de ce que signifie son baptême, une telle personne doit avoir des péchés dans son cœur et ne peut pas être sauvée simplement par sa propre foi. La plupart des chrétiens ne connaissent que la moitié de son acte juste. L'apôtre Jean explique clairement l'évangile dans sa première épître. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang, et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Première épître de Jean, chapitre 5, versets 6 à 7, il y a beaucoup de passages dans la Bible qui soutiennent à quel point son baptême est essentiel pour compléter son acte juste pour notre salut. Tous les chrétiens devraient revenir à l'évangile de l'eau et de l'Esprit. Sixième question. Quelles écritures prouvent que les apôtres ont mis l'accent sur le baptême de Jésus ? Réponse. Nous devons avant tout distinguer la signification de notre baptême de celle du baptême de Jésus. Nous ne pouvons pas naître de nouveau simplement en recevant le baptême d'eau. Nous ne pouvons naître de nouveau qu'en croyant en Jésus-Christ. Les rituels tels que le baptême ou la circoncision ne sont pas des conditions indispensables au salut de Dieu. La Bible ne définit pas le baptême d'eau des croyants comme une condition indispensable à leur salut. Au contraire, elle met l'accent sur le baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste. En fait, de nombreux passages bibliques soutiennent que le baptême de Jésus est indispensable et essentiel à notre salut. Tout d'abord, son baptême est proclamé comme le prologue de tout son acte de justice dans chacun des quatre évangiles. Par exemple, l'évangile selon Marc commence par l'évangile de Jésus-Christ, précisément à partir du baptême de Jésus. L'évangile selon Jean a été écrit dans un ordre chronologique, en utilisant des termes tels que « le lendemain », « Jean », « chapitre 1 », « verset 29 », et « le troisième jour », « Jean », « chapitre 2 », « verset 1 », à partir du jour où Jésus a été baptisé. Jean-Baptiste a annoncé la parole de Dieu dès le lendemain du baptême de Jésus, en disant « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Jean, chapitre 1, verset 29. Ce passage signifie que tous les péchés du monde ont été transférés sur Jésus lorsque Jean-Baptiste l'a baptisé. Puis, il est mort sur la croix pour l'expiation de nos péchés, en disant « Tout est accompli ». Jean, chapitre 19, verset 30, et est ressuscité des morts le troisième jour. L'apôtre Paul a également dit que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 3. Les Écritures ici font référence à l'Ancien Testament. Comment les pécheurs offraient-ils des sacrifices pour enlever le péché dans l'Ancien Testament? Ils devaient poser ses mains sur la tête de l'offrande pour le péché avant de l'immoler. S'il avait omis le processus consistant à poser ses mains sur la tête de l'offrande pour le péché, il n'aurait pas pu expier le péché parce que c'est un sacrifice illégal. L'apôtre Paul a dit « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. » Romains, chapitre 6, verset 3. Alors, comment est-il possible que nous soyons baptisés en Jésus? Être baptisé en Jésus-Christ, c'est croire en son baptême au Jourdain, pas seulement en nos propres baptêmes d'eau. Lorsque nous croyons que Jean-Baptiste a transféré tous nos péchés sur lui en posant ses mains sur la tête de Jésus, nous pouvons être baptisés en lui. Vous tous, qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Galates, chapitre 3, verset 27. Ceux qui ont transféré tous leurs péchés sur Jésus par Jean-Baptiste par la foi sont devenus les enfants sans péché de Dieu. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Colossiens, chapitre 2, verset 11. L'apôtre Paul a dit que la façon d'être délivré du péché en dépouillement du corps des péchés de la chair est d'être circoncis spirituellement sans l'aide des mains. Romains, chapitre 2, verset 29, déclare « Et la circoncision, c'est celle du cœur ». C'est-à-dire de croire au baptême de Jésus, qui enlève les péchés de notre cœur. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Première épître de Pierre, chapitre 3, verset 21. Le baptême est un antitype qui nous sauve. Comme nous le savons déjà, des gens ont péri à l'époque de Noé parce qu'ils ne croyaient pas à l'eau. Aujourd'hui encore, il y a des gens désobéissants qui périraient même s'ils croyaient en Jésus parce qu'ils ne croient pas au baptême de Jésus, qui est l'eau. L'apôtre Jean a tout révélé sur l'Évangile dans sa première épître. C'est lui qui est venu avec de l'eau et du sang, Jésus-Christ, non avec de l'eau seulement, mais avec de l'eau et avec du sang. Première épître de Jean, chapitre 5, verset 6. Jésus est venu à nous à la fois par son baptême et par la croix pour nous sauver de tous nos péchés. Jean a également dit « C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. » Première épître de Jean, chapitre 5, verset 8. Cela nous dit que le baptême de Jésus, la croix et l'Esprit composent ensemble un salut parfait. Jésus dit à Nicodème « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Jean, chapitre 3, verset 5. Nous sommes nés de nouveau de l'eau et de l'esprit. La croyance en son baptême d'eau et de la croix est tout ce dont vous avez besoin pour être racheté et recevoir le Saint-Esprit comme un don. C'est ce que dit la Bible à propos de « naître de nouveau ». Ainsi, l'apôtre Pierre a dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Actes, chapitre 2, verset 38. Pour recevoir l'effacement de tous les péchés et le don du Saint-Esprit, vous devez avoir une foi inébranlable dans le baptême de Jésus de tout votre cœur. Que pouvons-nous dire d'autre ? Ne niez pas la vérité selon laquelle tant de passages soutiennent son baptême comme un acte indispensable de sa justice pour notre salut. Le christianisme doit revenir à l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Hébreux, chapitre 6, versets 1 à 2. Ici, nous pouvons trouver un indice pour trouver l'évangile originel de l'Église primitive. Ils enseignaient le baptême, l'imposition des mains, la résurrection des morts et le jugement éternel à ceux qui venaient de devenir chrétiens. Nous devrions tous croire dans notre esprit que Jésus a pris tous nos péchés par son baptême et qu'il est mort sur la croix afin d'être jugé pour nos péchés selon la juste loi de Dieu. Septième question. C'est quelque chose que j'ai déjà cru et enseigné, à moins que vous ne mettiez spécifiquement l'accent sur le baptême de Jésus, souvent ignoré. Si c'est le cas, alors qu'est-ce qui est exactement différent dans l'évangile de l'eau et de l'esprit ? Réponse : être sauvé signifie recevoir l'effacement de tous les péchés. Cela signifie également naître de nouveau. Lorsqu'un pécheur devient une personne juste en croyant en l'évangile de la vie, nous disons : ils sont nés de nouveau de l'eau et de l'esprit par le salut de Jésus. Le Saint-Esprit vient sur ceux qui ont été rachetés et nés de nouveau et témoigne qu'ils sont enfants de Dieu. Par conséquent, tout est finalement identique. Recevoir l'élimination des péchés, recevoir le Saint-Esprit, être racheté, naître de nouveau, devenir un enfant de Dieu et devenir une personne juste. Jésus a dit, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean, chapitre 14, verset 6. Ce qui implique que c'est seulement par Jésus, le Fils unique de Dieu, que nous pouvons entrer dans le royaume de Dieu. Par conséquent, nous devons savoir comment Jésus a lavé tous nos péchés et nous a comptés comme son peuple, qui mérite d'entrer dans son royaume. Néanmoins, la plupart des chrétiens pensent encore que le simple fait d'invoquer son nom peut les sauver. Ils croient en Jésus sans jamais ouvrir la Bible, sans savoir ce qu'il a fait pour nous sauver de tous nos péchés. Dieu est l'Esprit et le Saint en qui il n'y a aucune variation ni changement, mais nous vivons des vies de péché. Entrer dans le royaume du Seigneur n'est possible que par Jésus, et nous pouvons croire en lui par la foi en « la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ ». Romains, chapitre 8, verset 2. Beaucoup de gens ne savent même pas ce que Jésus a fait pour le salut. Au contraire, ils croient aveuglément en lui en vain, en disant « Seigneur, Seigneur ». Ils pensent aussi qu'ils sont sauvés, mais ils ont encore des péchés dans leur cœur. Si vous avez encore du péché dans votre cœur malgré votre foi en Jésus, de quoi avez-vous alors été sauvé ? Si quelqu'un demande « Comment Jésus a-t-il lavé nos péchés ?» La majorité des gens répondent « Il les a probablement lavés sur la croix. » Puis, à une autre question, « Avez-vous du péché dans votre cœur ?» Ils répondent « Certainement. » Qui peut être absolument exempt de péché sur cette terre ? Le nom de Jésus signifie « C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Matthieu, chapitre 1, verset 21. Nous croyons en Jésus pour être sauvés du péché. Cependant, si nous avons encore du péché dans notre cœur, bien que nous croyions en Jésus, nous sommes toujours des pécheurs vendus à l'esclavage du péché et serons jugés en conséquence. L'apôtre Paul a dit, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Romains, chapitre 8, verset 1. Il est donc certain que quelqu'un qui a encore du péché dans son cœur n'est pas encore un avec Jésus-Christ. Pourquoi reste-t-il des pécheurs qui ne sont pas rachetés et qui sont déchus du salut, même s'ils croient toujours en Jésus ? C'est parce qu'ils croient seulement au sang de la croix, sans lui transmettre leur péché par le baptême de Jésus. Par conséquent, ils ont toujours le péché dans leur cœur, tandis que Jésus est mort sur la croix indépendamment de leur péché. Il y a une différence significative entre les chrétiens qui croient au baptême de Jésus et ceux qui n'y croient pas. Certains ont la rédemption et deviennent justes en ayant foi au baptême de Jésus, tandis que d'autres restent encore pécheurs sans y croire. Le Saint-Esprit ne vient pas sur un pécheur. Il ne vient que sur les justes, qui sont nés de nouveau par l'eau et l'Esprit. Ainsi, l'apôtre Paul a dit : Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Romains, chapitre 6, verset 3. Beaucoup de gens croient que Jésus a enlevé nos péchés sur la croix, mais nous ne pouvons jamais confesser que nous avons un cœur sans péché si nous ne croyons pas au baptême de Jésus. Si nous le faisons, nous sommes coupables de mentir à Dieu, ce qui va à l'encontre de notre propre conscience. Nous avons certainement encore du péché dans notre cœur si nous n'avons pas transféré tous nos péchés sur Jésus sans croire en son baptême. Ceux qui ne croient pas à l'évangile du baptême de Jésus et de la croix sont enclins à tomber dans le légalisme et à devenir de graves pécheurs. Par conséquent, quoi qu'ils fassent, comme prier dans les montagnes profondes ou prier sincèrement pour le pardon pendant les réunions de prière, ils ont toujours des péchés dans leur cœur. Jésus a dit : Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là : Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? Alors je leur dirai ouvertement : Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Matthieu, chapitre 7, versets 21 à 23. À qui fait référence, vous qui commettez l'iniquité ? Cela fait référence à ceux qui n'ont pas reçu la rédemption parfaite dans leur cœur pour avoir cru seulement à la croix. C'est une foi arbitraire, qui ne vient pas de Dieu. Nous pratiquons l'illégalité si nous ne croyons pas au fait que Jésus nous a sauvés par son baptême et la croix. Nous ne pouvons pas dire que nous avons la vraie foi avant de connaître et de croire à la fois au baptême de Jésus et à la croix. Jésus a dit que si les gens veulent naître de nouveau, cela n'est possible que par l'eau et l'Esprit. Tout comme les gens n'auraient pu être délivrés des eaux du déluge que s'ils avaient été dans l'arche de Noé, vous ne pouvez recevoir la rémission de tous vos péchés et vivre une vie de fidélité véritable que si vous croyez en l'évangile de l'eau et de l'Esprit. Sans l'évangile de l'eau et de l'Esprit, vous ne pouvez ni recevoir l'élimination des péchés ni devenir enfant de Dieu. Huitième question : J'étais sûr que croire en Jésus m'avait sauvé. J'étais en paix avec les convictions de mon cœur. Mais maintenant je suis troublé par vos messages. Dois-je croire à son baptême et à sa croix pour être sauvé ? Réponse : Si vous ne croyez pas au baptême de Jésus, c'est certainement que vous avez du péché dans votre cœur. L'apôtre Jean a dit : Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. 1er Épître de Jean, chapitre 1, verset 8. Si vous dites que vous n'avez pas de péché, même si vous avez en fait du péché parce que vous ne croyez pas au baptême de Jésus, c'est un acte de tromperie de votre propre conscience et c'est la preuve que la vérité n'est pas en vous. La conviction du salut émerge dans nos cœurs lorsque nous recevons l'élimination des péchés et le Saint-Esprit comme un don en croyant à la fois au baptême de Jésus et à la croix. L'apôtre Paul a dit : Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Galates, chapitre 1, versets 6 à 7. Seul l'évangile de l'eau et de l'esprit, que les apôtres ont reçu de Jésus et qu'ils ont prêché aux hommes, peut nous sauver de tous nos péchés. Si nous ne croyons pas en l'évangile de l'eau et de l'esprit que les apôtres ont prêché, nous avons certainement encore du péché en nous. Comment pourrions-nous vivre avec la conviction du salut alors que nous avons encore du péché en nous? Lorsque les chrétiens, qui ne sont pas encore nés de nouveau, se comportent bien devant Dieu, ils sont sûrs de leur salut en toute joie et conviction. Cependant, ils manquent de conviction et ont peur à cause du fardeau du péché dans leur cœur lorsqu'ils commettent des péchés graves. Il s'agit d'un pseudo-salut basé sur leurs propres pensées et émotions, et non sur Dieu. Ils ont tendance à faire des prières de repentance tous les jours pour devenir progressivement sanctifiés et maintenir leur salut facilement ébranlé. Ceux qui croient en ce faux salut pensent qu'ils seront enfin parfaitement sauvés un jour, s'ils mènent une vie sainte, en demandant pardon à Dieu chaque jour et en respectant la loi par leurs actes. Néanmoins, ils sont toujours pécheurs s'ils n'ont pas déposé leurs péchés sur Jésus par la foi en son baptême. Le salut que Dieu a fait est un salut parfait, ce qui nous dit que Jésus a enlevé tous les péchés du monde par son baptême par Jean dans le Jourdain et les a effacés sur la croix. Ainsi, l'apôtre Jean a dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Première épître de Jean, chapitre 1, verset 9. Si tous nos péchés n'avaient pas été effacés par l'évangile de l'eau et de l'esprit parce que nous ne le savions pas, nous devons confesser devant le Seigneur que nous sommes toujours pécheurs et que nous sommes destinés à aller en enfer à cause de nos péchés. C'est une véritable confession de péché. Le péché ne peut pas être effacé sans l'évangile de l'eau et de l'esprit, aussi léger soit-il. Lorsque nous confessons de cette manière, l'évangile de l'eau et de l'esprit efface tous nos péchés une fois pour toutes et nous rend justes. Voici maintenant le temps favorable. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 2. Quiconque entend et croit en l'évangile du baptême de Jésus et de la croix est sauvé de tous ses péchés, devient juste et a une foi forte qu'il est toujours prêt à entrer dans le royaume des cieux quand le Seigneur viendra. Toutefois, dans les doctrines et les théologies autres que le véritable évangile ne peut pas nous sauver de tous nos péchés. Ce sont simplement des ruses que le diable a mises dans les pensées des êtres humains. Nous devrions revenir à l'évangile de l'eau et de l'esprit et recevoir le véritable salut des péchés dans nos cœurs. C'est cela, l'aimer lui et son œuvre. Neuvième question. Comment pouvez-vous expliquer le salut du voleur sur la croix? Réponse. À cette époque, tous les Juifs attendaient le Messie prophétisé. Par conséquent, ils connaissaient bien la loi et le système sacrificiel que Dieu avait donné par l'intermédiaire de Moïse, plus que tout autre peuple. Ils croyaient que le Messie viendrait selon la loi expiatoire de Dieu et les libérerait de tous leurs péchés. Cependant, ils ne croyaient pas que le baptême de Jésus par Jean-Baptiste venait de Dieu et était censé transférer tous les péchés du monde sur Jésus. Marc, chapitre 11, versets 27 à 33. Mais ils le considéraient plutôt comme un homme qui avait égaré le peuple et l'avait ainsi crucifié. Puisque les Romains étaient protégés de la flagellation ou de la crucifixion selon la loi romaine, Actes, chapitre 22, versets 25 à 29, chapitre 23, verset 27, nous voyons que les voleurs sur la croix n'étaient pas des Romains, mais des Juifs. Nous voyons aussi que le voleur était un Juif qui craignait Dieu, d'après ses paroles, « Souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton règne. » Luc, chapitre 23, verset 42. Le voleur juif connaissait déjà la loi et le système sacrificiel que Dieu avait donné à Moïse. Il croyait donc que le Messie viendrait selon la loi expiatoire de Dieu. Ceux qui viennent à Dieu doivent confesser qu'ils sont pécheurs, destinés à aller en enfer pour leurs péchés. Le voleur a confessé ses péchés en disant « Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. » Luc, chapitre 23, verset 41. Nous pouvons également voir que le voleur craignait Dieu et qu'il espérait entrer dans le royaume des cieux à partir de ses paroles. « Souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton règne. » Luc, chapitre 23, verset 42. Le voleur a dit, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Luc, chapitre 23, verset 41. Que savait le voleur de ce que Jésus a fait? Il croyait que Jésus avait été conçu par le Saint-Esprit, qu'il était né de la Vierge Marie, qu'il avait été baptisé par Jean-Baptiste, le représentant de toute l'humanité, qu'il avait enlevé tous les péchés du monde et qu'il avait été crucifié. C'était un Juif qui croyait en ce que Jésus avait fait pour tous les peuples, y compris lui. Ceux qui ont confessé leurs péchés par le baptême de Jean ont reconnu la justice de Dieu lorsqu'ils ont entendu que tous leurs péchés seraient transférés sur Jésus par son baptême. Cependant, ceux qui n'ont pas reçu le baptême de repentance de Jean ont rejeté la volonté de Dieu parce qu'ils ne croyaient pas non plus au baptême de Jésus. Luc, chapitre 7, versets 28 à 30. Au contraire, le voleur qui a été sauvé a confessé que tout ce que Jésus a fait était correct et juste, alors que les autres Juifs ne le pensaient pas. Il était peut-être l'un des Juifs qui avait entendu toutes ces choses, qui se sont accomplies parmi nous. Luc, chapitre 1, verset 1. Il pouvait enfin dire que Jésus était juste et le Messie prophétisé, parce qu'il a finalement cru sur la croix que Jésus avait enlevé tous ses péchés par son baptême. En conséquence, il a été sauvé. Il a également été sauvé en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Parce que Dieu est juste, il justifie ceux qui croient au baptême de Jésus et à la croix selon sa loi de l'esprit de vie. Dixième question. Puisque Dieu est gracieux et compatissant, ne nous considérerait-il pas comme justes, même si nous avons du péché dans nos cœurs, si nous croyons simplement en Jésus? Réponse : Dieu est amour et aussi juste. C'est pourquoi il juge le péché avec droiture, quoi qu'il arrive. Le salaire du péché, c'est la mort. Romains, chapitre 6, verset 23. Cela signifie qu'un pécheur est destiné à l'enfer après avoir été jugé. Il sépare les justes des pécheurs, tout comme il a séparé la lumière des ténèbres. Dieu reconnaît comme justes les personnes sans péché qui croient que Jésus a effacé tous les péchés par son baptême et sa mort sur la croix. Cependant, ceux qui ont encore du péché en eux, parce qu'ils ne croient pas au baptême de Jésus, sont des pécheurs en présence de Dieu. Ce sont ceux qui ne croient pas à l'eau, en d'autres termes, au baptême de Jésus, tout comme les gens du temps de Noé ne croyaient pas. Si Dieu considère les pécheurs, qui ont encore du péché en eux, comme justes et sans péché, alors il doit mentir et ne peut donc pas juger ou régner sur toutes ses créations. Il a dit : Je ne justifierai pas le méchant. Exode, chapitre 23, verset 7. Les méchants sont ceux qui suivent et dépendent davantage de la tradition des gens, laissant de côté l'évangile de l'eau et de l'esprit, par lequel Dieu nous a rachetés de tous nos péchés de la manière la plus juste et la plus équitable. Jésus a dit : En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Jean, chapitre 16, verset 9. Le seul péché qui reste sur terre maintenant est de ne pas croire au fait que Jésus a enlevé tous nos péchés par son baptême et la croix, et est devenu notre Sauveur. C'est un péché contre le Saint-Esprit qui ne peut jamais être expié. Il n'y a aucun autre moyen pour ceux qui blasphèment contre le Saint-Esprit d'être sauvés, parce qu'ils ne croient pas que Jésus a lavé tous leurs péchés. L'apôtre Jean a dit : Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Première épître de Jean, chapitre 3, versets 4 à 6. C'est transgresser la loi que de ne pas croire au fait que Jésus a enlevé tous nos péchés par son baptême et sa croix. Il rejettera ceux qui commettent une telle transgression au dernier jour. Ceux qui demeurent en lui n'ont pas de péché et sont unis à Jésus en étant baptisés en lui. Ceux qui ont déposé sur lui tous les péchés de leur vie entière par leur foi en son baptême n'ont pas de péché, même s'ils pêchent encore à cause des faiblesses de la chair. Dieu déclare juste ceux qui ont déposé leurs péchés sur Jésus et qui sont devenus sanctifiés par la loi de l'Esprit de vie. Il leur donne le Saint-Esprit en cadeau. Le Saint-Esprit ne vient jamais sur ceux qui ont du péché dans leur cœur. David a dit dans son psaume : Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal, le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Psaume, chapitre 5, verset 4. Le Saint-Esprit de Dieu ne demeure jamais dans le cœur de ceux qui ont du péché en eux. Même un pécheur qui n'a pas le Saint-Esprit en lui peut dire qu'il a été sauvé du péché, selon les doctrines et ses propres pensées. Cependant, on ne peut jamais dire qu'on n'a pas de péché dans son cœur et qu'on est juste par la foi, parce que sa conscience le frappe. Par conséquent, une telle personne dit qu'elle est un pécheur aux yeux des autres, mais pense en fait qu'elle est une personne juste aux yeux de Dieu. Cependant, Dieu ne considère jamais un pécheur comme juste. Un pécheur est l'objet de son jugement, et le pécheur doit croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit pour être sauvé. Onzième question. Si nous disons que Jésus a déjà éliminé tous nos péchés du passé, du présent et du futur, quel serait l'avenir d'une personne qui continuerait à pécher constamment tout en pensant que ses péchés ont déjà été pardonnés par sa foi dans le baptême et la croix de Jésus? Même si cette personne tue quelqu'un d'autre, elle pensera qu'elle a été pardonnée même pour ce genre de péché à travers Jésus. Par conséquent, elle continuera à pécher sans aucune hésitation, simplement en croyant que Jésus a déjà éliminé même les péchés qu'elle commettra dans le futur. Veuillez m'expliquer ces choses. Réponse. Tout d'abord, je vous remercie d'avoir soulevé des questions sur l'évangile de l'eau et de l'esprit. Les questions que vous avez posées sont celles que de nombreux chrétiens se posent avant de naître de nouveau. Je sais que vous vous inquiétez que les personnes nées de nouveau continueraient à pécher en étant soulagées par l'évangile parfait. Cependant, je veux vous dire que les gens qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit ne sont pas enclins à vivre la vie dont vous vous inquiétez, mais mènent plutôt une vie juste. Vous devriez d'abord réfléchir à cela. Si le Saint-Esprit est vraiment en vous, alors vous porterez des fruits saints même si vous ne le souhaitez pas. D'un autre côté, si le Saint-Esprit ne demeure pas en vous, vous ne pourrez produire aucun fruit de l'Esprit, peu importe vos efforts. Comment une personne peut-elle porter les fruits de l'Esprit si elle n'a pas le Saint-Esprit dans son cœur, même si elle croit en Jésus d'une manière ou d'une autre? C'est impossible. Le Seigneur a dit qu'un mauvais arbre ne pourrait jamais porter de bons fruits. Matthieu, chapitre 7, versets 17 à 18. Je veux maintenant vous poser cette question et y apporter également une réponse. Vous croyez en Jésus, mais menez-vous vraiment votre vie en ayant triomphé des péchés du monde? Vivez-vous comme un serviteur juste de Dieu en surmontant les péchés du monde, en servant le Seigneur davantage et en permettant aux autres d'être sauvés de tous leurs péchés en leur transmettant l'évangile de l'eau et de l'esprit? Êtes-vous vraiment devenu une personne juste sans aucun péché après avoir cru en Jésus? La seule foi et l'unique évangile qui vous permettent de répondre « oui » à ces questions sont l'évangile de l'eau et de l'esprit, dont le Seigneur a témoigné dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Nous continuons à pécher dans le monde même après avoir cru en Jésus. Cependant, notre Seigneur a été baptisé par Jean et a versé son sang sur la croix pour nous sauver de tous les péchés du monde. Par conséquent, le Seigneur a accompli une œuvre juste pour nous, et nous avons été sauvés de nos péchés par la foi en la justice de Dieu, c'est-à-dire le baptême du Seigneur et son sang par lesquels il a éliminé nos péchés. Je voudrais vous poser à nouveau quelques questions. Êtes-vous libéré des péchés de votre conscience? N'étiez-vous pas un pécheur même après avoir cru en Jésus, tout comme vous l'étiez avant de croire en lui? Si cela est vrai, c'est probablement parce que vous ne connaissiez pas l'évangile de l'eau et de l'esprit. Par conséquent, vous êtes tombé dans les problèmes et les distractions inhérents à la chair parce que vous ne possédez pas l'esprit dans votre cœur. Peu importe à quel point vous êtes un croyant fidèle, vous ne pouvez échapper aux pensées de la chair qu'en vidant votre cœur et en acceptant l'évangile de l'eau et de l'esprit. Vous devriez abandonner vos pensées charnelles et revenir à la parole écrite de Dieu afin de comprendre le fait que l'évangile de l'eau et de l'esprit est la vérité. Il y a beaucoup de gens dans ce monde qui changent la loi du salut que le Seigneur a établie de la manière qu'ils veulent, même s'ils confessent le Seigneur avec leurs lèvres. Si vous êtes l'un de ces gens, le Seigneur vous abandonnera au dernier jour. J'espère que cela n'arrivera à personne dans ce monde. Je prie pour que vous ne soyez pas une personne qui croit que seul le sang de Jésus sur la croix peut vous sauver, et que vous ayez posé ces questions par désir de vivre le reste de votre vie loin du péché. Cependant, vos pensées sont des pensées de la chair qui, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Romains, chapitre 8, verset 7. Paul dit « Or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » Romains, chapitre 8, verset 8. Si vous désirez vraiment avoir la foi qui plaît à Dieu, vous devez croire en l'œuvre remarquable du Seigneur. Il est venu dans ce monde par la Vierge Marie, a pris en charge les péchés de l'humanité par le baptême que Jésus a reçu de Jean le Baptiste au Jourdain, et a ainsi accompli toute la justice de Dieu. Qui, selon vous, peut accomplir l'œuvre juste de Dieu, un juste ou un pécheur? Un pécheur est toujours au milieu du péché parce qu'il n'a pas reçu l'élimination du péché devant Dieu. Par conséquent, la seule chose qui attend une telle personne est le jugement pour ses péchés. Dieu ne peut pas laisser les pécheurs entrer dans son royaume parce que, car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Psaume, chapitre 5, verset 4. Dieu a dit que si un pécheur venait à lui et lui demandait quelque chose, il n'écouterait pas les prières du pécheur parce que leur, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ésaïe, chapitre 59, verset 2. Un pécheur tombera certainement en enfer, puisque le salaire du péché est la mort. Seuls les justes, qui sont devenus saints et ne possèdent donc pas de péché dans leur cœur, peuvent accomplir des œuvres justes. De plus, le Saint-Esprit habite dans le cœur des justes, qui ne possèdent pas de péché après avoir cru au baptême de Jésus et à la croix. L'apôtre Pierre a dit le jour de la Pentecôte, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Actes, chapitre 2, verset 38. Ce passage dit que si vous voulez avoir la vraie foi et recevoir l'élimination de tous vos péchés par la foi, alors vous devez croire à la fois au baptême de Jésus et à sa mort sur la croix. Une telle foi peut vous permettre d'être « baptisé au nom de Jésus », c'est-à-dire que vous pouvez recevoir l'élimination de vos péchés en ayant foi en ses actes justes. Bien sûr, les disciples de Jésus ont également administré le rituel du baptême aux croyants nés de nouveau, qui avaient foi en son baptême et en la croix. Jésus a ordonné à ses disciples de baptiser tout le monde au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu, chapitre 28, verset 19. De plus, l'apôtre Paul a dit, « Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Romains, chapitre 8, verset 9. Dieu donne le Saint-Esprit aux justes afin de les sceller comme ses enfants. Le Saint-Esprit ne peut jamais demeurer à l'intérieur des pécheurs, car il possède le péché. Le Saint-Esprit n'aime pas le péché. Au contraire, il préfère la sainteté, se détacher du péché. L'Esprit guide aussi les justes sur le chemin de la justice et les conduit à suivre la volonté du Père. Alors, quelle est cette volonté du Père? C'est de répandre l'évangile de l'eau et de l'Esprit aux gens de toutes les nations et de faire d'eux des enfants de Dieu sans péché. La chair des justes et des pécheurs commet le péché jusqu'à leur mort. Cependant, le Seigneur a accompli l'acte juste d'éliminer tous les péchés que les gens commettent avec leur chair et leur cœur par son baptême et son sang. C'est la justice de Dieu que Jésus a accomplie. C'est pourquoi il est écrit dans la Bible, parce qu'en lui, le véritable évangile est révélé la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Romains, chapitre 1, verset 17. Une personne qui a reçu la suppression des péchés en croyant en la justice de Dieu vaincra la loi du péché et de la mort et suivra plutôt sa justice. Cela n'est possible que par le Saint-Esprit, qui vient et demeure en ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'Esprit. Tous les péchés du passé, du présent et de l'avenir d'une personne juste ont été transférés sur Jésus au moment où il a été baptisé par Jean-Baptiste. La chair du juste est également morte avec Jésus. Lorsqu'une personne croit en cela, elle s'unit à Jésus dans sa mort. Cela devient le jugement pour tous ses péchés. Romains, chapitre 6. Par conséquent, même si la chair d'une personne juste commet également des péchés tout au long de sa vie, le Saint-Esprit qui habite dans son cœur la guide afin qu'elle puisse suivre l'Esprit. Une personne juste suit le Saint-Esprit et accomplit l'œuvre de Dieu parce que le Saint-Esprit habite en elle. Même à l'époque des apôtres, beaucoup de gens avaient l'habitude de blâmer sans raison les nés de nouveau parce qu'ils avaient le culot de s'inquiéter de la vie des nés de nouveau, qui étaient gouvernés par le Saint-Esprit. Cependant, ces personnes ont mal compris le véritable évangile de l'eau et de l'Esprit prêché par les apôtres et l'ont assimilé aux pensées instinctives de la chair. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit à ces gens, « Que dirons-nous donc ? Demeurerions-nous dans le péché, afin que la grâce abonde ? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché ? » Romains, chapitre 6, versets 1 à 2. Il a ajouté, « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. » Romains, chapitre 7, verset 25. En conclusion, la chair du juste est toujours insuffisante et n'a pas d'autre choix que de pécher continuellement, mais il suit toujours le Saint-Esprit, prêchant l'Évangile au monde entier. Les justes marchent par l'Esprit parce que leur cœur repose sous la grâce. Quoi donc ? Pécherions-nous parce que nous sommes, non sous la loi, mais sous la grâce ? Loin de là ! Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Romains, chapitre 6, versets 15 à 16. Tout comme les vraies fleurs sont très différentes des fleurs artificielles, le mettre à l'intérieur du cœur d'un juste et d'un pécheur sont différents l'un de l'autre. Puisque le mettre dans le cœur d'une personne juste est le Saint-Esprit, la personne est capable de marcher dans l'Esprit et de suivre la vérité juste dans sa vie, ce qui plaît à Dieu. D'un autre côté, un pécheur n'a pas d'autre choix que de suivre le péché parce que le maître en lui est le péché lui-même. Un pécheur est incapable de mener une vie sainte parce qu'il ne possède pas l'Esprit, à cause de ses nombreuses iniquités. L'hypothèse selon laquelle les croyants en l'évangile de l'eau et de l'Esprit ne sont pas capables de mener une vie sainte n'est qu'une erreur découlant des pensées instinctives de la chair. Dieu les avertit en disant, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Jude, chapitre 1, verset 10. De nos jours, beaucoup de gens ne comprennent pas la vie des justes, même s'ils reconnaissent l'évangile de l'eau et de l'esprit comme le véritable évangile, parce qu'ils ne le connaissent pas pleinement et ne l'ont pas reçu dans leur cœur. Que pensez-vous des œuvres justes des saints nés de nouveau ? Ils ont offert toutes leurs choses précieuses, même eux-mêmes en sacrifice vivant, pour les bonnes œuvres de diffusion de l'évangile dans le monde entier. Selon vos propres pensées, Pourquoi pensez-vous que les croyants en l'évangile de l'eau et de l'esprit commettraient volontairement un péché sous prétexte de l'évangile? Les justes font de bonnes œuvres par la foi au milieu de la lumière de la vérité et de la justice de Dieu. Ceux qui pratiquent la justice de Dieu sont nés de Dieu. Nous espérons simplement que tous les pécheurs reviendront à l'évangile dans lequel Jésus a lavé tous leurs péchés par son baptême et son sang. Oui, notre souhait le plus sincère est que vous receviez le lavage des péchés en croyant véritablement dans l'évangile de l'eau et de l'esprit de tout votre cœur, et que vous attendiez le Seigneur jusqu'au dernier jour sans péché.